Bonjour et bienvenue dans De Bonne Foi, le podcast qui invite des jeunes à parler de leur rapport à la religion, la spiritualité ou la philosophie. Ils et elles sont athées, musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes ou agnostiques, et c'est à travers cette facette intime et parfois taboue de leur identité que j'ai appris à les connaître. Avec chacune de ces personnes, j'ai eu des discussions profondes et vécu des moments forts. Grâce à chacune d'entre elles, j'ai remis en question mes certitudes et bousculé mes préjugés. À travers ces échanges, j'ai aussi découvert des modèles de vivre ensemble qui m'ont profondément marqué. Je m'appelle Floriane et je veux partager ces rencontres avec vous. Aujourd'hui, je vous présente Thomas.
D'accord, eh bien bonjour. Donc je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans.
Thomas est un garçon qui me touche beaucoup. Bavard, profondément optimiste et amoureux des gens, engagé sur de nombreux sujets, il est d'une curiosité insatiable. Je l'ai rencontré lors d'un voyage au Liban organisé par Coexister pendant l'été 2017. Durant ce séjour, nous étions 8 jeunes. Catholiques, musulmans et musulmanes, athées, agnostiques. Le lien affectif que nous avons tissé et la profondeur des conversations que nous avons eues durant ce séjour m'ont marqué à jamais. Au Liban, nous avons eu l'occasion d'assister à une messe chrétienne maronite. En sortant de la messe, nous parlions du geste de paix et Thomas m'a raconté comment ce geste avait été un élément déclencheur dans sa pratique religieuse.
On s'échange la paix du Christ, il y a vraiment une connexion dans le regard qui se fait. La messe se termine et bien après la messe, elle se retourne vers moi.
L'écouter parler de son cheminement spirituel mêlé à son regard critique m'a captivé.
Je voyais vraiment l'église comme une institution extérieure, un truc hiérarchique, un peu vieux jeu.
C'est pour cette raison que j'ai voulu le faire parler à mon micro.
Pas toujours facile, j'ai quand même toujours resté quelqu'un de très rebelle et j'ai quand même des fois beaucoup de désaccords.
J'ai profité de retrouver Thomas lors d'un festival pour enregistrer cet épisode. Du coup, vous entendrez parfois de la musique ou des bruits en arrière-plan. Bonne écoute. Parle-moi un peu de l'éducation religieuse que tu as reçue, les différents modèles que tu avais aussi.
Alors j'ai été élevé au sein d'une famille, je pense comme il y en a un certain nombre en France, qui m'a transmis une éducation catholique un peu par habitude. Donc j'ai été baptisé bébé, j'ai été inscrit au catéchisme, j'ai fait ma première communion. Mais voilà, en même temps, mes parents n'allaient jamais à la messe à part à Noël, ou au mariage, ou aux enterrements. Mais voilà, j'ai eu une éducation, je pense, d'un catholicisme culturel. Donc un peu paradoxal de se dire, on me donne ces clés-là, et en même temps, dans la vie de tous les jours, j'ai pas spécialement l'impression qu'il y a un lien fort avec l'Église, avec la foi, au sein de mon cercle familial proche en tout cas. Et en même temps, donc, il y a quand même eu des figures personnelles qui m'ont marqué. Je pense particulièrement à mon parrain et à mes grands-parents côté maternel, qui, je le savais, voilà, avaient une foi plus particulière, plus vive, pratiquant dans ces trois cas. Et il se trouve que, assez paradoxalement, c'était aussi des gens qui, humainement, m'inspiraient énormément. Je trouvais qu'il y avait une générosité, un engagement associatif, une transmission de plein de valeurs, de plein de cultures, qui m'a toujours fasciné et qui m'a toujours questionné. C'est marrant, ce sont ces personnes-là qui m'aiguillent le plus.
Pendant ton enfance, ton adolescence, tu n'étais pas très proche de l'Église. En tout cas, tu te considérais comme catholique. Tu vas m'expliquer plus exactement. Bon, je me souviens que tu m'as dit que tu as toujours senti que tu avais la foi, que ça t'arrivait de prier seul, même si tu vivais ta foi de manière individuelle. Elle a toujours été là.
Ouais, exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent une éducation religieuse, qui des fois se disent, bon voilà, bon gamin, t'es dans le moule, t'es dans l'histoire, tu te poses pas trop de questions. Et puis arrive à l'adolescence, la communion, enfin c'est voilà, ces âges-là, voilà, 10 ans, 12 ans, 14 ans, où tu commences à remettre beaucoup de choses en question, et bah, notamment éventuellement la foi et tout ça, quitte à y revenir plus tard. Moi, c'est pas arrivé effectivement comme ça, c'est-à-dire qu'on m'a transmis une éducation religieuse, donc où voilà, on m'a parlé de certaines choses. C'est vrai qu'assez vite, à un moment où on a justement... Alors, je ne peux pas dire ce que je pensais réellement de ce sujet-là à 8 ans, honnêtement. Mais quand la question se pose de manière plus sérieuse, voilà, à 12 ans, on a des vrais questionnements, où je me rappelle vraiment de questionnements vitaux hein, sur l'existence, le sens de la vie. Moi, je n'ai jamais eu de période, je pense, de ma vie où je me suis senti complètement athée. J'ai eu des périodes de ma vie où je me suis posé des questions et tout. Et j'ai toujours eu, peut-être par cette éducation religieuse hein, que j'ai reçue, une petite voix, quelque chose chez moi qui me disait « Il y a quelque chose au-dessus de toi, Alors, ce petit quelque chose, comme j'avais une éducation religieuse catholique, ce petit quelque chose, je mettais un sens plutôt chrétien, en me disant, ça doit être Dieu, dans le sens, la représentation chrétienne que j'avais reçue. Mais en même temps, je me sentais complètement éloigné de l'Église, dans l'image qu'on peut s'en faire, et même dans sa pratique. Je n'allais jamais à l'Église. Et en fait, malgré tout, j'ai conservé un lien transcendantal, vertical, assez haut, parce que j'ai continué à prier depuis d'aussi longtemps que je me souvienne. Des prières, alors effectivement très personnelles, pas des prières collectives ou des prières conventionnelles peut-être, mais des choses qui me marquaient, des demandes ou des merci, peut-être un peu machinalement, parce que quand on est tout seul et qu'on prie, le problème c'est qu'on s'auto-entretient effectivement une foi un peu individuelle et qui m'a longtemps porté et qui, je pense, m'a toujours porté pendant toute mon adolescence. Donc je me suis toujours senti croyant, même si j'ai toujours un peu de mal à me rattacher à une communauté, même s'il y avait toujours cette figure de Dieu, du Christ, peut-être culturellement qui me parlait, j'ai toujours eu un lien transcendantal particulier où j'avais vraiment l'impression que j'avais besoin et qu'il y avait du répondant. Enfin, c'est pas que j'en ai besoin, c'est pas un médicament, loin de là. J'ai eu cette discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un, je disais la foi c'est pas du tout quelque chose pour consoler les âmes qui en auraient besoin, c'est au contraire une force, un mouvement d'espoir, d'espérance, d'amour, etc. Mais c'est un mouvement que j'ai toujours senti, moi, un mouvement au sein de moi.
Quand on était du coup en voyage au Liban, tu m'as parlé d'un moment particulier qui t'a rapproché de la communauté catholique et qui a renforcé ta foi. Est-ce que tu peux me raconter un peu dans quel contexte c'est arrivé ?
Effectivement, parce qu'au Liban, on a eu la chance donc d'assister à une messe maronite, donc une chrétienne maronite, qui sont une des communautés chrétiennes du Liban. C'est assez proche en termes de rites des catholiques, ce qu'on connaît chez nous en France. Et au moment de la paix du Christ, en fait, au Liban, ils la font différemment qu'en France. Et je me suis rappelé...
Tu peux expliquer un peu la paix du Christ, qu'est-ce que c'est ?
Ouais, alors effectivement. En fait, c'est un moment où le prêtre donne la paix du Christ à toute l'assemblée et invite l'assemblée, donc toutes les personnes qui sont dans l'église à ce moment-là, à s'échanger un signe de paix entre eux pour se transmettre la paix du Christ. C'est en fait après l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'au moment où on considère que dans une messe catholique, le Christ s'est incarné dans l'Eucharistie, dans l'hostie qui est présente, eh bien on donne la paix du Christ à l'assemblée avant de recevoir cette Eucharistie. Il faut dire, je vais accueillir le corps du Christ, mais avant j'accueille sa paix. Bon, là c'est de la théorie de ce qui se passe. Et moi, ce qui me touche plus particulièrement, c'est que, en fait, le moment officiel, c'est le prêtre qui donne la paix du Christ à l'assemblée. Après, ce qui peut se passer, c'est que le prêtre dit à l'assemblée, maintenant vous pouvez échanger un signe de paix. En fait, vous avez tous reçu individuellement cette paix du Christ, mais vous pouvez la donner aussi à votre voisin qui l'a certes reçu individuellement, mais passe par vous, quoi. Donc les gens se donnent la paix du Christ, et il se trouve qu'au Liban, moi, j'ai découvert une autre façon de donner la paix du Christ. Voilà, on a discuté, et c'est vrai que moi, j'ai eu un truc qui m'a marqué, c'est que j'étais à Pau en 2012, je venais d'arriver dans cette ville, j'ai trouvé un travail là-bas, je ne connaissais pas forcément énormément de monde là-bas, alors j'étais déjà en quête spirituelle, là, beaucoup plus avancée, déjà depuis 2-3 ans, j'avais avancé sur mon chemin personnel. Je m'étais vraiment renseigné, beaucoup creusé, lu beaucoup de choses sur différents textes religieux, différentes religions, différentes figures, Jésus, Mohamed, etc. pour pousser un peu le sujet. Et je m'étais beaucoup plus senti rapproché des évangiles, notamment du message de Jésus qui me touchait particulièrement, qui me mettait en mouvement. Et en même temps, je restais quand même dans une foi très solitaire, très en retrait de l'Église. À cette époque, je voyais vraiment l'Église comme une institution extérieure. Enfin, non, cette truc hiérarchique, un peu vieux jeu. Enfin, je caricature volontairement, mais c'est un peu l'image qu'elle me renvoyait, qu'elle renvoie à beaucoup de gens, un peu réactionnaires. Donc, je me disais, même si je me reconnais dans beaucoup de paroles, dans beaucoup de choses très très fort qui peut être un christianisme, ça me gêne un peu quand même. Malgré tout, vivre sa foi tout seul, chanter qu'il y avait une sécheresse, il y a quelque chose qui me manquait et que j'avais besoin de partager ça. Et que voilà, je passais à côté de quelque chose. Et quelque part dans la croix, il y a le vertical, le rapport qu'on peut avoir à Dieu, puis il y a l'horizontal. Et la croix, c'est la rencontre des deux. Et l'horizontal, c'est aussi la rencontre avec les autres. Et je me suis senti de plus en plus le besoin de me dire peut-être qu'il faut que j'aille à une messe. Et que j'y aille, enfin vraiment quoi, du coup. Et à Pau, j'y vais. Dimanche matin, je vais à une messe. Et au moment de la paix du Christ, justement, et ce geste qui me plaît beaucoup, c'est qu'on échange avec les gens qui sont autour de nous à l'église. C'est important parce qu'on va dire, on passe une heure à regarder tous dans la même direction. Finalement, on ne se regarde pas beaucoup entre nous. Et ce moment où on prend le temps, on se retourne, on s'échange un geste, on se fait la bise, on se serre la main. En s'échangeant la paix, on se regarde. Et on regarde l'assemblée, on regarde la diversité des âges, la diversité des classes sociales, la diversité des genres, la diversité de plein de choses. Et c'est intéressant de se dire que l'église est beaucoup plus variée qu'on peut l'imaginer quand on voit ça. Et à ce moment-là, donc, du coup, il y a une jeune fille qui est devant moi, qui se retourne. Et je vois bien qu'elle fait un large sourire quand, en se retournant, elle dit « Ah, il y a un autre jeune ». Parce qu'effectivement, c'était un dimanche, 11h du matin à Pau. L'église, il n'y avait pas beaucoup de personnes de moins de 50 ans. Je vois bien dans son sourire, ah ben tiens, il y a un jeune à la messe. Donc on s'échange la paix du Christ, il y a vraiment une connexion dans le regard qui se fait. La messe se termine. Et bien après la messe, elle se retourne vers moi avant que je parte. Elle me dit, ah ben dis donc, c'est la première fois que je te vois ici, t'as l'habitude de venir et tout. Alors, je lui dis, bah non, effectivement, c'est la première fois. Je lui dis, tu sais, je suis croyant, mais je suis pas toujours très très à l'aise dans les églises, j'ose pas toujours. Enfin, elle me dit, ah ben je comprends, moi j'ai longtemps été comme toi. Puis donc, la discussion commence. Puis on discute, puis on se dit, mince, bon, ça fait 20 minutes qu'on discute devant l'église, on a peut-être envie d'entrer chez soi. Ah, bah, t'habites où? Ah, bah, j'habite là, bah, ça tombe bien, la route, on va marcher ensemble. Et on marche ensemble 20 minutes, on discute 20 minutes. Son appartement est avant le mien, on reste devant l'appartement, on rediscute 20 minutes. Donc on a discuté une heure après la messe. Et entre-temps, je lui ai dit, mais tu sais, par exemple, moi, je me pose la question de plus en plus de me préparer à la confirmation. Sacrement de la confirmation qu'en général on fait à 14-15 ans quand on continue le catéchisme de manière classique, moi j'avais arrêté après la communion. Et elle me dit, ah ben c'est marrant tu me dis ça parce que moi j'ai fait ça l'an dernier à 25 ans, c'est un moment hyper fort de ma vie et là si tu veux, bah, demain lundi soir, presbytère de l'église là où on était, il y a un atelier de préparation de la confirmation pour les jeunes adultes, moi je le co-anime, ça t'intéresse de venir? Je dis, bah ok, on peut y aller, on y va. Et puis à la sortie après l'atelier, on a rediscuté une heure. Et j'avais besoin aussi d'un groupe d'échange de paroles. Je dis, ah, je comprends pas toujours les textes et tout. J'aimerais bien trouver des gens avec qui on peut discuter, etc. Elle me dit, bah, c'est marrant, il y a un autre groupe qui se fait le mardi soir. Et donc, le mardi soir, on s'est retrouvé. Donc, en fait, en un dimanche, ouais, un geste de paix du Christ, je me suis retrouvé à une réunion le lundi, à une autre réunion le mardi. Et j'ai vécu une année 2012-2013 à Pau. En fait, clairement, j'ai compris le sens du mot église. Et l'église, c'est la communauté des croyants et pas une institution. C'est d'autant plus marquant que 2012-2013, c'est l'année de la loi du mariage pour tous. Et c'est la loi, donc, en regard de la manifestation pour tous, avec quand même ce qu'elle a drainé dans les églises, notamment, hein, pas que, mais quand même, on a bien vu quand même la connotation, franchement même homophobe, ou pour certains, peut-être pas homophobe, mais d'incompréhension et de rejet de cette loi, et que moi j'ai trouvé complètement déplacé. Et en fait, c'était tout ce que j'ai toujours détesté dans l'Église, ça m'a toujours empêché d'y aller, qui était en train de se passer sous mes yeux, au moment où moi, j'ai fait une année où j'ai jamais été autant dans l'Église, où j'ai compris que l'Église, ça n'appartenait pas à des gens avec qui je pouvais pas être d'accord, mais c'était une communauté de croyants, et j'ai fait le basculement inverse, je me suis dit, puisqu'il y a des gens comme ça dans l'Église, eh ben, en fait, il faut que j'y sois aussi, pour faire entendre une autre musique, et que je ne peux pas critiquer une communauté dans laquelle, partout, j'ai plein de valeurs, je partage plein de valeurs, et où, en fait, où j'ai aussi rencontré énormément de gens avec qui je partageais les valeurs, et que les deux, trois têtes de figure qu'on associe partout, en fait, ils ne sont pas tant que ça, mais on les voit partout. Et je me suis dit, bah, en fait, effectivement, si les autres ou s'en vont ou se taisent, eh ben, y a de la place que pour cela. Et donc, en fait, ce qui aurait pu me freiner au moment où j'avais cette entrée-là m'a au contraire boosté à me dire, ben non, en fait, au contraire, continue de t'engager, continue de t'investir. Et donc, j'ai fait une année, vraiment, je suis devenu pratiquant, au sens où on entend, dans l'église cette année-là. Et puis, j'ai fait ma confirmation à la Pentecôte, donc 2013, c'est à 25 ans. Et c'était un des plus beaux moments spirituels de ma vie, quoi.
Quels sont tes engagements au sein de l'église aujourd'hui?
J'ai été sollicité pendant 2 ans pour faire partie de l'équipe d'animation de l'aumônerie des étudiants à Limoges. Bon, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Après, j'ai aidé aussi une des responsables du catéchisme en lycée public. C'était aussi pour essayer d'apporter un regard un peu différent, un peu neuf, un peu, voilà, mon histoire qui peut être particulière avec l'Église, un peu critique aussi, parce que voilà, j'ai quand même toujours resté quelqu'un de très rebelle. Et bon, là, j'ai raconté aussi la belle histoire de comment je suis rentré. C'est à part pour ça que c'est toujours tout repos et qu'il n'y a pas eu des moments où j'ai voulu lâcher les bras et je me suis dit, punaise, il y a quand même trop de choses qui ne me plaisent pas dans l'institution, j'ai envie de me barrer. Malgré tout, j'ai pas envie de laisser l'institution à des gens avec qui je suis en désaccord, mais c'est pas toujours facile. J'ai quand même des fois beaucoup de désaccords. Et les autres engagements, pendant 2 ans, j'ai accompagné un jeune catéchumène. Donc, c'est-à-dire, un catéchumène, c'est quelqu'un qui demande le baptême. Alors, c'est vrai que souvent, quand on baptise les gens, les bébés à 6 mois, à 1 an, bon, ils n'ont pas demandé le baptême, les parents. Mais quand on demande le baptême, on a 12 ans, on a 20 ans, on a 50 ans. C'est pas automatique, c'est pas comme un bébé pour le coup. Il y a une préparation spirituelle, ce qui est pour le coup je trouve très intéressant, très beau. Et moi j'étais sollicité pour accompagner un jeune 23 ans, je crois, qui demandait le baptême, et pendant 2 ans, une fois par mois, l'aider sur qu'est-ce que c'est qu'être chrétien dans sa vie tous les jours, qu'est-ce que c'est que la foi, qu'est-ce que c'est qu'avoir des doutes. Je lui dis, hein, une foi, c'est, si t'es sûr de toi, c'est que ta foi est morte. Une foi vivante, c'est une foi qui doute tout le temps, c'est un chemin, je dis, c'est une force, c'est pas un truc fixe, c'est pas une certitude. On est des croyants, on n'est pas des sachants, donc on ne sait pas les choses, on fait confiance. La foi, c'est aussi ça, fidélis, hein, c'est la confiance, la racine même du mot. Hein, donc on fait confiance à un chemin, après il se passe ce qui se passe et il faut être modeste aussi. Donc c'est toutes ces choses-là, donc je l'ai aidé pendant 2 ans. Là, j'ai été sollicité plusieurs fois aussi pour former les diacres du diocèse à l'interreligieux. Ça, c'est par rapport à mon engagement à coexister. Donc je vais refaire une formation bientôt.
Maintenant, ça fait plusieurs années que tu es engagé dans l'interreligieux, l'interconvictionnel. Raconte-moi comment ça a commencé.
Alors en fait, ça a commencé quand j'étais adolescent, justement, quand je me posais plein de questions, où moi je sentais, même si je m'étais vraiment très en rejet avec l'institution, une vraie verticalité, un vrai besoin transcendantal, donc une foi, une croyance et tout, donc je me sentais croyant. Et en même temps, j'étais bercé d'influences culturelles et d'influences amicales, tous mes copains, complètement athées. Une société, ou en tout cas athée d'apparence, parce que je me suis rendu compte après, a posteriori, hein, des amis que je connaissais depuis 5 ou 6 ans, qui en fait m'ont dit ah, « ben non, moi j'ai toujours été croyant, mais je n'osais pas le dire et tout ». Voilà, toujours été confronté à cette question-là, et un peu cette difficulté d'assumer le fait de se dire bah, « il y a peut-être quelque chose », c'est voilà, très, il se dit rationnel, mais je déteste ça, parce que la rationalité, c'est pas l'absence, enfin je veux dire, on peut très bien être croyant et rationnel. Voilà, vraiment un peu dans l'absolutisme du rejet absolu. C'est impossible qu'il existe quelque chose de transcendantal et il faut quand même être complètement le dernier des débiles pour croire qu'il puisse exister un truc. Et ça m'a un peu secoué, adolescent. J'ai eu du mal à me dire, mais comment je peux exister, coexister peut-être avec cette diversité de convictions. Moi, c'est surtout à ça que j'étais confronté au départ, à la diversité de convictions entre croyants et non-croyants, plus qu'à de l'interreligieux auquel j'ai été assez peu confronté dans ma vie, parce que la majorité des gens que j'ai fréquentés pendant très longtemps n'étaient pas croyants, et les quelques croyants que j'ai connus, pour le coup, étaient chrétiens. Donc il n'y avait pas une diversité interreligieuse auquel j'étais fortement confronté. La richesse interreligieuse, j'ai eu la chance de le connaître justement via les engagements que j'ai pu avoir avec Coexister depuis 2015.
Merci Thomas d'avoir accepté de partager ton regard et ton expérience. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a questionné, touché, parlez-en autour de vous. Et écrivez-moi sur Facebook et Instagram à De Bonne Foi Podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous!